Vous êtes sur RTL.
Nous repartons à Strasbourg, où c'est une véritable chasse à l'homme, hein, qui a donc débuté. Bonjour Alain Boer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, à New York et à Shanghai. On va d'abord parler du profil de l'homme recherché. Que sait-on de cet homme ?
Alors, il est, sous réserve qu'il soit bien l'auteur de ce qui lui est reproché, car pour l'instant, c'est une hypothèse forte, mais ce n'est qu'une hypothèse. Il est bien connu pour des faits de pure criminalité et délinquance, violence pour l'une, condamné à plusieurs reprises, ayant fait de la prison, et par ailleurs, fiché S, qui veut dire signalé mais pas surveillé, je le répète chaque fois parce que ce S devient un peu encombrant à force de ne pas savoir ce que veut dire ce mot.
Oui, mais signalé pourquoi du coup ?
On peut être signalé pour des tas de choses, y compris le fait que dans son quartier, qui est un quartier bien connu de Strasbourg, oui, et relativement marqué par une forte présence salafiste, on peut avoir beaucoup de contacts. En fait, c'est un pur hybride, c'est-à-dire un criminalo-terroriste, quelqu'un qui est entre deux, ce qui est la hantise la plus complète des services de sécurité depuis l'apparition de Khaled Kelkal il y a 20 ans, oui. Le premier pur criminel qui est passé au terrorisme et pas pur terroriste qui est passé à la violence. Et c'est un des sujets les plus compliqués parce que les services de renseignement continuent à avoir beaucoup de difficultés à comprendre ces individus qui sont entre deux, connus pour des activités criminelles. D'ailleurs, il échappe à une perquisition pour des affaires de pur droit commun en début de matinée. Visiblement, il est informé de la perquisition et je pense que c'est ça qui le fait basculer dans son opération criminelle qui est visiblement totalement improvisée. Le fait d'ailleurs que les
éléments... Vous voulez
éléments
dire qu'il il se préoccupe de terrorisme quand il n'est pas en train de commettre des délits, en fait.
Il se réhabilite. C'est un sujet assez connu maintenant depuis Mohamed Merah, qui est le copier-coller de Khaled Kelkal en moins intéressant dans les années 2012. Hein. C'est-à-dire qu'ils se refont une virginité en devenant des militants d'une cause plutôt que des délinquants, des criminels, des proxénètes et des dealers. Et 90% de la population identifiée aujourd'hui dans les activités terroristes sont d'abord des criminels. L'État islamique est la seule organisation terroriste de l'histoire à non seulement accepter, reconnaître, mais même valoriser les criminels, alors que tous les autres s'en défendent, ne veulent même pas être mélangés dans les prisons, expliquent que c'est une honte de ne pas être dans des quartiers politiques, entre guillemets, et d'être mis dans les quartiers droit commun. L'IRA, l'ETA, jamais n'aurait accepté l'idée même qu'on puisse les traiter de criminels. C'est une insulte, sauf l'État islamique, pour qui c'est une valorisation.
Vous venez d'employer le terme d'improvisation concernant éventuellement l'opération d'hier soir. Pourquoi ?
Bon, je pense que c'est la même situation que dans les opérations de perquisition à Bruxelles, qui se traduisent par la fuite éperdue d'une partie des opérateurs des attentats ou des supports des attentats de Paris, qui provoquent donc des attentats ou des opérations, des coups de feu, des courses-poursuites un peu partout, et qu'on n'est pas du tout dans une affaire extraordinairement structurée. En tout cas, c'est une hypothèse forte, il faudra la démontrer par la suite. L'élément le plus important, c'est que l'arme la plus puissante qu'il avait, une grenade, restait chez lui.
On peut imaginer des opérations conjointes, voire des initiatives ?
Je crois pas. Je pense que la force des services de renseignement français qui ont mis beaucoup de temps à prendre le dessus sur ces affaires, oui, c'est d'avoir démantelé les groupes les plus importants, les plus structurés, les plus puissants, les plus en mesure de faire beaucoup de victimes et qui restent aujourd'hui des petits moustiques au sens technique du terme, qui sont capables de piquer ou de vous rendre fou, mais pas de provoquer des attentats massifs. Il y a beaucoup de victimes dans ce cas précis, mais c'est bien peu par rapport à ce qu'est la marque de fabrique et de l'État islamique et de l'ancien Al-Qaïda, même si ça n'a jamais été son nom, qui, eux, fabriquent des attentats massifs. On est passé de l'attentat massif structurant, oui, à une foultitude de micro-attentats. Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins dans la réalité. Ils ont toujours un fort retentissement médiatique, puisque le terrorisme, c'est de la com d'abord et de la violence ensuite. Mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que ce que nous-mêmes imaginions après la fin de l'État islamique territorial.
On peut imaginer qu'il ait été informé de la perquisition qu'il visait.
Ah, bien sûr, quand vous avez une descente de gendarmes chez vous, vous êtes informé qu'ils sont chez vous et donc vous ne rentrez pas à la maison. La plupart
par
de
par qui
ces...
Comment, excusez-moi,
les voisins. Vous êtes dans un quartier qui est connu non pas pour son activité religieuse, ce ne sont pas des gentils baptistes ou des musulmans fréquentant la mosquée avec des idées pieuses, c'est un quartier qui est connu pour avoir une activité. En plus, c'est une bande, une logique d'hybride, c'est qu'on est dans une bande criminelle, on est dans une bande de délinquants. C'est l'histoire de l'organisation territoriale du crime C'est ça, et d'ailleurs c'est un quartier plutôt malheureusement mal connu des services, je dis malheureusement parce que ses habitants en sont d'abord les premières victimes, hein. Faut pas croire qu'ils sont tous des complices. Mais peu à peu, dès lors que vous avez une descente de police, il y a des informateurs, des indicateurs, des gens qui sont là pour dire « attention, il se passe quelque chose chez toi, ne reviens pas à la maison ». Et comme la plupart de ces gens vivent la nuit et que les perquisitions ont lieu tôt le matin, c'est d'ailleurs une partie du problème, c'est qu'on peut rater des gens parce que l'horaire de la perquisition administrative, qui est très utile pour les visites chez les gens entre guillemets « honnêtes » ou plutôt de style bourgeois, et un peu décalé par rapport à la vie criminelle.
Je retiens de ce que vous nous dites que dans un quartier de ce type, la notion de loup solitaire n'a aucun sens.
Ah non, mais cette notion n'a jamais eu aucun sens. D'accord. C'est une invention pour expliquer l'erreur des services de renseignement quand ils se plantent.
Alors, donc, tournons la page.
C'est une excuse.
Les marchés de Noël sont-ils une cible privilégiée par définition pour les terroristes et
pour
ce type de
principe ? Ah oui, ça fait 20 ans. Alors, le marché de Noël, on n'est pas sûr. La cathédrale, oui. La cathédrale de Strasbourg, l'attaque devant le parvis de Notre-Dame, l'ambassade des États-Unis à Paris font partie des cibles identifiées, comme d'autres que je ne citerai pas à l'antenne, parce qu'elles sont moins connues, mais qu'elles sont bien repérées. Et donc les marchés de Noël, depuis une attaque récente l'année dernière, je crois il y a 2 ans en Allemagne, sur le même dispositif, montrent qu'il y a des enjeux majeurs. Et d'ailleurs, celui-ci était particulièrement surveillé. Il se trouve d'ailleurs que ça arrive au moment où le marché ferme, non pas au moment où il est en pleine activité. C'est-à-dire un choix qui est soit de la fuite, soit justement du moment où tout le monde est soulagé parce qu'il ne s'est rien passé dans la journée, et on se sert un peu de cet état de soulagement pour pénétrer le dispositif, mais sans voiture, puisqu'elles ne peuvent pas pénétrer. On est là dans l'individu qui vient juste avec l'équipement qu'il a sur lui, un couteau et une arme à feu.
Alain Boer, peut-on sécuriser de pareils lieux ? Un marché de Noël, est-ce que ça se sécurise ?
Non, non, on a écrit dans Vivre au temps du terrorisme il y a quelques temps qu'on était passé des lieux sécurisables. Les espaces ne sont plus défendables, on ne peut pas fermer un espace. Pas plus qu'on peut fermer une ville quand il y a une manifestation de gilets jaunes, on ne peut pas fermer un espace. Par contre, ce qu'il faut, c'est gérer les flux. Et donc toute la question, elle est de modifier l'approche. C'est un travail très important est très compliqué. Ce sont les Israéliens qui ont le mieux maîtrisé ça dans leurs aéroports. Et donc, c'est une révolution culturelle qui vise à identifier des individus et non seulement à les signaler, mais à les surveiller, à les hiérarchiser et à comprendre le risque qui existe.
Notre correspondante en Allemagne nous rappelait que la traque allait se faire désormais des deux côtés de la frontière parce qu'il a pu fuir vers l'Allemagne. Comment se passe ce genre d'enquête menée des deux côtés d'une frontière entre deux polices ?
Comme ça a été le cas en Belgique avec la coopération franco-belge, il y a une très bonne coopération entre la police française et la police allemande. Alors, il compliqué parce qu'il n'y a pas une police en Allemagne, mais plusieurs. Il y a des polices locales, des polices régionales et une police d'État. Donc je pense qu'il va y avoir une coordination de la traque, mais ça marche très bien avec les Suisses, les Belges et ça marche très bien avec les Allemands.
Une toute dernière question. Comme toujours en France, la politisation reprend le dessus et l'opposition, par les voix de Marine Le Pen et de Laurent Wauquiez, critique déjà la politique antiterroriste du gouvernement.
Non, il y a une très bonne équipe qui s'occupe de l'antiterrorisme, notamment auprès du chef de l'État dirigé par M. de Bousquet. La coopération est de bonne qualité. La police est passée de la compilation à l'analyse, certes lentement, mais elle l'est réellement.
Elle l'a fait.
Et il y a 10 fois plus d'opérations préventives réussies depuis juillet 2016 qu'avant juillet 2016, ce qui montre un très gros effort. 50 attentats qui n'ont pas eu lieu, c'est mieux que 5 qui ont eu lieu. Mais effectivement, 100% d'efficacité, même si les critiques étaient au pouvoir, ils ne pourraient pas affirmer un tel résultat, malheureusement. Et puis là, on verra pour ce qui a raté. Mais il faut le rappeler, une perquisition et visiblement une garde à vue aurait dû avoir lieu le matin même. Donc on ne peut pas dire que la police ne l'avait pas vu, ne l'avait pas identifié, ne savait pas qui il était, n'était pas au courant de sa dangerosité. Le problème, c'est qu'il est allé plus vite qu'elle.
Merci beaucoup Alain Boer. J'en profite pour rappeler votre livre, hein, « Comment vivre au temps du terrorisme » paru chez First Document. Bonne journée à vous.
Bonne journée.